Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous terminons aujourd'hui le livre écrit par Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon, aux éditions Gallimard, Folio Jeunesse. Celui qui se dit grand chasseur de lions et partage avec les Tarasconnais de nombreuses chasses, tirant surtout sur beaucoup de casquettes, après bien des tergiversations, a fini par aller en Algérie pour tuer le lion et ramener des peaux pour ses amis. Je relis 10 lignes de la quatrième de couverture du livre en introduction de cette dernière lecture. Il est vantard, il est vaniteux, il se nomme Tartarin et grand chasseur. Il tue beaucoup de casquettes, car à Tarascon, où il habite une maison aux murs couverts d'armes étranges et au jardin planté d'un baobab, le gibier se fait rare. Il ira donc en Afrique pour y chasser le lion. Admiratif, tout le village a accompagné son héros qui s'éloigne, déguisé en arabe et armé comme un cuirassé d'escadre. Ici, nous allons être dans la troisième partie du livre qui a pour titre « Chez les lions » et je lis en page 140 ce chapitre 6. Chapitre 6, enfin. Le lendemain de cette aventure est tragique. Soirée, lorsqu'au petit jour notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis, partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage, avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le Tarasconnais douta. Il douta du Monténégro, il douta de l'amitié, il douta de la gloire, il douta même des lions. Et, comme le Christ à Gethsémani, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là, pensivement assis sur la porte du marabout, la tête dans ses deux mains, sa carabine entre les jambes et le chameau qui le regardait, soudain, le maquis d'en face s'écarte et Tartarin, stupéfait, voit paraître à 10 pas devant lui un lion gigantesque, s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout tout chargés d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du saint dans leur niche. Seul, le Tarasconnais ne trembla pas. « Enfin » cria-t-il en bondissant, la crosse à l'épaule. « Pam, pam, put !» C'était fait. Le lion avait 2 balles explosives dans la tête. Pendant 1 minute, sur le fond embrasé du ciel africain, ce fut un feu d'artifice épouvantable, de cervelle en éclats, de sang fumant et de toisons rousses éparpillées. Puis, tout retomba et Tartarin aperçut 2 grands nègres qui couraient sur lui, la matraque en l'air. Les 2 nègres de Miliana. Oh misère, c'était le lion apprivoisé, le pauvre lion aveugle du couvent de Mohamed que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Cette fois, par Mahon, Tartarin l'échappa belle. Ivre de fureur fanatique, les 2 nègres quêteurs l'auraient sûrement mis en pièces si le dieu des chrétiens n'avait envoyé à son aide un ange libérateur, le garde champêtre de la commune d'Orléansville, arrivant, son sabre sous le bras, par un petit sentier. La vue du képi municipal calma subitement la colère des nègres. Paisible et majestueux, l'homme de la plaque dressa procès-verbal de l'affaire, fit charger le chameau, ce qui restait du lion, ordonna aux plaignants comme aux délinquants de le suivre. et se dirigea sur Orléansville, où le tout fut déposé au greffe. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes, processive et avocatière. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés, la bohème des gens de loi, les dossiers qui sentent l'absinthe, les cravates blanches mouchetées de champoreau. Il connut les huissiers, les agréés, les agents d'affaires, toutes ces sauterelles du papier timbré, affamé et maigre, qui mange le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laisse déchiqueter feuille par feuille comme un plant de maïs. Avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre. Et à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des deux territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de courses, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que, si d'une part le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part, Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Comment faire pour payer tout cela ? Les quelques piastres échappés à la razzia du prince s'en étaient allés depuis longtemps en papiers légaux et en absinthe judiciaire. Le malheureux tueur de lion fut donc réduit à vendre la caisse d'armes au détail, carabine par carabine. Il vendit les poignards, les crisses mallées, les casse-têtes. Un épicier acheta les conserves alimentaires. Un pharmacien, ce qui restait du sparadrap. Les grandes bottes elles-mêmes y passèrent et suivirent. La tente abri perfectionnée chez un marchand de bric-à-brac qui les éleva à la hauteur de curiosités cochins chinoises. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence. Ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. Tartarin, cependant, voulait regagner Alger à toute force. Il avait hâte de revoir le corselet bleu de Baïa, sa maisonnette, ses fontaines, et de se reposer sur les trèfles blancs de son cloître, du petit cloître, en attendant de l'argent de France. Aussi, notre héros n'hésita pas. Et navré, mais point abattu, il entreprit de faire la route à pied, sans argent, par petites journées. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable. Et le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment, Tartarin trouva cela touchant. Cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve lui allait au cœur. D'autant que la bête était commode et se nourrissait avec presque rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le Tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Puis, l'aigreur s'en mêlant, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire, il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre. Le chameau le retrouva. Il essaya de courir. Le chameau courut plus vite. Il lui criait « Va-t'en !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste. Puis, au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Tartarin dut se résigner. Pourtant, lorsque, après 8 grands jours de marche, le Tarasconnais poudreux, harassé, vit loin étinceler dans la verdure les premières terrasses des blanches maisons d'Alger, lorsqu'il se trouva aux portes de la ville, sur l'avenue bruyante de Mustapha, au milieu des zouaves, des biscrises, des mahonaises, tous grouillant autour de lui et le regardant défiler avec son chameau, pour le coup, la patience lui échappa. « Non, non, dit-il, ce n'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans Alger avec un animal pareil. » Et, profitant d'un encombrement de voitures, il fit un crochet dans les champs et se jeta dans un fossé. Au bout d'un moment, il vit au-dessus de sa tête sur la chaussée de la route le chameau qui filait à grandes enjambées, allongeant le cou d'un air anxieux. Alors, soulagé d'un grand poids, le héros sortit de sa cachette et entra dans la ville par un sentier détourné qui longeait le mur de son petit enclos. Chapitre 7. Catastrophe sur catastrophe. En arrivant devant sa maison mauresque, Tartarin s'arrêta, très étonné. Le jour tombait, la rue était déserte. Par la porte basse en ogive que la négresse avait oublié de fermer, on entendait des rires, des bruits de verre, des détonations de bouchons de champagne et dominant tout ce joli vacarme, une voix de femme qui chantait joyeuse et claire « Aimes-tu Marco la Belle, la danse aux salons en fleurs ?»« Troun de Diou !» fit le Tarasconnais en pâlissant et il se précipita dans la cour. « Malheureux Tartarin !» Quel spectacle l'attendait! Sous les arceaux du petit cloître, au milieu des flacons, des pâtisseries, des coussins épars, des pipes, des tambourins, des guitares, Baïa, debout, sans veston bleu ni corselé, rien qu'une chemisette de gaze argentée et un grand pantalon rose tendre chanté, Marco la Belle, avec une casquette d'officier de marine sur l'oreille. À ses pieds, sur une natte, gavée d'amour et de confiture, Barbassou, l'infâme capitaine Barbassou, se crevait de rire en l'écoutant. L'apparition de Tartarin, hâve, maigri, poudreux, les yeux flamboyants, la chéchia hérissée, interrompit tout net cette aimable orgie turco-marseillaise. Baïa poussa un petit cri de levrette effrayée et se sauva dans la maison. Barbassou, lui, ne se troubla pas et riant de plus belle, « Ha ha, eh bien, monsieur Tartarin, qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez bien qu'elle savait le français. » Tartarin de Tarascon s'avança furieux. « Capitaine !»«
Digolik et vengé mumbum !» cria la mauresque, se penchant de la galerie du premier avec un joli geste canaille.
Le pauvre homme, atterré, se laissa choir sur un tambour. Sa mauresque savait même le marseillais. Quand je vous disais de vous méfier des Algériennes, fit sentencieusement le capitaine Barbassou, c'est comme votre prince monténégrin. Tartarin releva la tête. Vous savez où est le prince?
Oh, il n'est pas loin. Il habite pour 5 ans la belle prison de Mustapha. Le drôle s'est laissé prendre la main dans le sac. Du reste, ce n'est pas la première fois qu'on le met à l'ombre. Son Altesse a déjà fait 3 ans de maison centrale, quelque part. Et tenez, je crois même que c'est à Tarascon. À Tarascon ? S'écria Tartarin subitement illuminé. C'est donc pour ça qu'il ne connaissait qu'un côté de la ville. Et sans doute, Tartarin.
Vous êtes toujours sur Radio Alliance Plus, dans l'émission Jolie pour vous, présentée par Hélène Vignon.
Et sans doute, Tarascon vu de la maison centrale. Ah, mon pauvre monsieur Tartarin, il faut joliment ouvrir l'œil dans ce pays de drôles, sans quoi on est exposé à des choses bien désagréables. Ainsi, votre histoire avec le muezzin. Quelle histoire ? Quel muezzin ? T'es pardi, le muezzin d'en face qui faisait la cour à Baïa. L'Akbar a raconté l'affaire l'autre jour et tout Alger en rit encore. C'est si drôle ce muezzin qui, du haut de sa tour, tout en chantant ses prières, faisait sous votre nez des déclarations à la petite et lui donnait des rendez-vous en invoquant le nom d'Allah. Mais c'est donc tous des gredins dans ce pays ? Hurla le malheureux Tarasconnais. Barbassou eut un geste de philosophe. Mon cher, vous savez, les pays neufs, c'est égal. Si vous m'en croyez, vous retournerez bien vite à Tarascon. Retourner ? Mais c'est facile à dire. Et l'argent ? Vous ne savez donc pas qu'ils m'ont plumé là-bas dans le désert ? Mais qu'à cela ne tienne, fit le capitaine en riant. Le zouave part demain. Et si vous voulez, je vous rapatrie. Ça vous va-t-il, collègue ? Alors, très bien. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Il reste encore quelques fioles de champagne, une moitié de croustade. Asseyez-vous là et sans rancune. Après la minute d'hésitation que lui commandait sa dignité, le Tarasconnais prit bravement son parti. Il s'assit, on trinqua. Baïa, redescendu au bruit des verres, chanta la fin de Marco la Belle. Et la fête se prolongea fort avant dans la nuit. Vers 3 heures du matin, la tête légère et le pied lourd, le bon Tartarin revenait d'accompagner son ami le capitaine lorsqu'en passant devant la mosquée, le souvenir du muezzin et de ses farces le fit rire et tout de suite une belle idée de vengeance lui traversa le cerveau. La porte était ouverte. Il entra, suivi de longs couloirs tapissés de nattes, monta encore et finit par se trouver dans un petit oratoire turc où une lanterne en fer découpé se balançait au plafond, brodant les murs d'ombres bizarres. Le muezzin était là, assis sur un divan, avec son gros turban, sa pelisse blanche, sa pipe de mostaganem et devant un grand verre d'absinthe qu'il battait religieusement, en attendant l'heure d'appeler les croyants à la prière. À la vue de Tartarin, il lâcha sa pipe de terreur. « Pas un mot, curé !» fit le Tarasconnais, qui avait son idée. « Vite, ton turban, ta pelisse !» Le curé turc, tout tremblant, donna son turban, sa pelisse, tout ce qu'on voulut. Tartarin s'en affubla et passa gravement sur la terrasse du minaret. La mer luisait au loin. Les toits blancs étincelaient au clair de lune. On entendait dans la brise marine quelques guitares attardées. Le muezzin de Tarascon se recueillit un moment, puis, levant les bras, il commença à psalmodier d'une voix suraiguë « La ha la 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 !»« Mahomet est un vieux farceur. L'Orient, le Coran, les Bachagas, les Lions, les Mauresques, tout ça ne vaut pas un viédaz. Il n'y a plus de tarte, il n'y a que des carotteurs. Vive Tarascon !» Et pendant qu'en un jargon bizarre mêlé d'arabe et de provençal, l'illustre Tartarin jetait des quatre coins de l'horizon sur la mer, sur la ville, sur la plaine, sur la montagne, sa joyeuse malédiction tarasconnaise, la voix claire et grave des autres muezzines lui répondait, en s'éloignant de minaret en minaret, et les derniers croyants de la ville haute se frappaient dévotement la poitrine. Chapitre 8. Tarascon, Tarascon. Midi. Le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue vue et viennent, colonel en tête par rang de grade, regarder l'heureux petit bateau qui va en France. C'est la grande distraction de l'état-major. En bas, la rade étincelle, la culasse des vieux canons turcs en terre le long du quai flambe au soleil. Les passagers se pressent. Biscris et Mahoney entassent les bagages dans les barques. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la Marine par le marché, plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux Tarasconnais a laissé sur la rive du Mort sa caisse d'armes et ses illusions. Et maintenant, il s'apprête à voguer vers Tarascon, les mains dans les poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine qu'une bête essoufflée dégringoche du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau fidèle, qui depuis 24 heures cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne. Il frétille au long du quai. Il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, » semble dire son œil triste. « Emmène-moi dans la barque, loin, bien loin de cet Arabie en carton peint, de cet Orient ridicule, plein de locomotives et de diligences où, dromadaire déclassé, je ne sais plus que devenir. Tu es le dernier Turc. Je suis le dernier chameau. Ne nous quittons plus, ô mon Tartarin. » Est-ce que ce chameau est à vous ? Demanda le capitaine. Pas du tout, répondit Tartarin, qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et, reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures et, s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave, avec son dos bombé qui flotte comme une gourde et son grand col dressé sur l'eau en éperon de trirème. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot. À la fin, « Il me fait peine, ce dromadaire !» dit le capitaine Barbassou tout ému. « J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. » On hissa sur le pont à grand renfort de palans et de cordes le chameau, alourdi par l'eau de mer. Et le zouave se mit en route. Les deux jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine. Non pas que la mer fût mauvaise, ni que la chéchia eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. « Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela ?» D'heure en heure, par les hublots de la cabine où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir. Puis, enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé. Le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de troisième classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine à 2 lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières. On crie, on s'étonne. Tartarin, à son tour, regarde. Et qu'aperçoit-il ? Le chameau, monsieur, l'inévitable chameau, qui détalait sur les rails, en pleine croc, derrière le train, et lui tenant pied. Tartarin, consterné, se rencoigna en fermant les yeux. Après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito, mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire ? Bon Dieu, pas le sou, pas de lion, rien. Un chameau ! Tarascon, Tarascon ! Il fallut descendre. Oh stupeur ! À peine la chéchia du héros apparut dans l'ouverture de la portière, un grand cri « Vive Tartarin !» fit trembler les voûtes vitrées de la gare. « Vive Tartarin, vive le tueur de lions !» Et des fanfares, des chœurs d'Orphéon éclatèrent. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification. Mais non ! Tout Tarascon était là, chapeaux en l'air et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarasconnais, et derrière eux, tout le midi, s'étaient montés la tête. Le sémaphore avait parlé, on avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué, c'était 10 lions, 20 lions, une marmelade de lions. Aussi, Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir. Et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de 2 heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa Tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. « C'est mon chameau, » dit-il. Et déjà sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta, en caressant la bosse du dromadaire. C'est une noble bête. Elle m'a vu tuer tous mes lions. Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant rouge de bonheur et, suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes acclamés par tout le monde, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab et, tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, qu'un certain soir, en plein Sahara, etc., etc., etc. » À la fin, cher lecteur, à la fin de ce livre, c'est une entrée triomphale dans Tarascon que nous allons laisser tranquillement notre homme au milieu de la foule. Le livre est fini. le grand chasseur Tartarin a tué un bourricot, un lion dans un cirque et un lion apprivoisé aveugle. Mais une peau envoyée à Tarascon a confirmé que notre homme est bien le chasseur de lions de grande renommée qu'il dit être. Et le monde y a cru. Ils sont tous venus l'attendre, en particulier les chasseurs de casquettes, dont il est le chef. Et voilà que, sans plus attendre, il commence à raconter son épopée. « Figurez-vous, dit-il, qu'un certain soir en plein Sahara, etc., etc. N'oubliez pas d'écouter les émissions « Je lis pour vous ». Je vais commencer très bientôt la lecture d'un nouveau livre sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB Plus, en direct les mardis et mercredis à 21h, en rediffusion les lundis et mardis à 6h. Quant au podcast, c'est sur le site de la radio que vous les trouverez, www.radioallianceplus.fr. À très bientôt, amis auditeurs.